Bon, partons le balado, l'épisode de cette semaine, parce qu'il y a des débats houleux qui se déroulent autour de la table. Salut à tous, Alexis Delancère, très heureux, ravi, privilégié de vous savoir parmi nous encore une fois. Jeff et Nicolas, en pleine forme, comme je l'ai constaté avant qu'on appuie sur le bouton enregistrement. Jeff, parlant de débat, tu en as lancé tout un la semaine dernière sur Invite.
Une invite.
Une invite, hein? Pour désigner quoi, non?
Un prompt, donc ce que tu écris à un robot conversationnel pour obtenir une réponse ou inviter une interaction avec le robot conversationnel. J'avais fait remarquer que le gouvernement fédéral canadien privilégie une invite. Et j'avais posé la question. J'avais quand même expliqué mon raisonnement, pourquoi je trouvais que c'était un bon mot. J'avais demandé aux gens ce qu'ils en pensaient. On a même fait un sondage sous la vidéo YouTube la semaine dernière.
Exactement. Alors, dévoilement, grande pompe de ce sondage qui est tellement scientifique. L'équipe Jeff, 71%, mesdames et messieurs, pour invite, une invite. Nicolas et moi, on n'était pas du même avis.
Non, mais tu sais, maintenant, le peuple a parlé, fait que je pense que je vais devoir l'intégrer à mon vocabulaire.
J'ai même eu... Vox Day.
L'affaire, c'est quand... En plus, le sondage, ce n'est qu'un portrait partiel hein, de la vie des gens, parce qu'on a reçu plusieurs courriels. Très forte majorité en soutien à Jeff. J'ai eu des messages privés.
Ah non, c'est incroyable.
D'amis, là, qui me disait, écoute, je suis du bord de Jeff.
Wow!
Donc, dont la personne, Vincent, qui était très contre l'expression « la question se pose », qui a fait en sorte qu'on le dit davantage. Ah. Lui m'a dit qu'il était de ton côté aussi.
Donc, cool. C'est fou la quantité de réactions, de commentaires qu'on a reçus. Invite ou invite de commande. Plusieurs disent « ça sonne bizarre à nos oreilles ». Il y en a un qui dit « mais elle représente bien l'objet qui sert à recevoir l'information ». Requête, même si le mot semble plus intéressant, représente l'action qui est faite dans l'invite de commande. Y a beaucoup de gens qui nous ont écrit, qui proviennent du monde des TI, entre autres. Il y en a un qui nous dit « Je suis ingénieur logiciel de carrière. Une invite de commande est le véritable terme français pour traduire le mot « command prompt » et ce, depuis des décennies, dit-il. Il faut vous faire à l'idée. » C'est ce qu'il nous dit. Alors, ça serait le bon terme. C'est ce que disent bien des gens. Évidemment, il n'y a pas une unanimité complète. Il y en a un qui dit « Je refuse, invite, je n'écoute plus si Jeff parle d'une invite. Team Nico! »
RIP.
Je suis désolé.
J'adore le fait que ça suscite autant de réactions. Ça en dit long sur, de un, notre attachement à la langue française, et de deux, au fait qu'il y a une réflexion à avoir sur le choix des mots dans le monde de la tech à chaque fois qu'on évoque ces concepts-là. Dans l'optique, nous dit une personne, de franciser certains termes communs, on peut soit trouver le meilleur mot qui décrit vraiment la chose ou ajuster les règles à l'utilisation populaire. Parce que j'évoquais cet argument de la familiarité. Il faut que ça sonne, il faut que ça résonne dans la tête des gens quand il y a un mot, une nouvelle désignation qui apparaît dans le portrait. Les arguments pour invite sont excellents, dit-il, mais ça sonne juste mal.
Factuel.
Il y en a un autre qui nous dit, oui, ça sonne mal, mais la répétition va régler ça. Une autre personne qui nous dit, comment ça l'animateur grimpe dans les rideaux? On n'a plus les rideaux qu'on avait, mesdames et messieurs, parce que je me sentais pourtant très calme, très zen.
Non, mais ce que les gens ne savent pas, c'est que ces deux-là étaient en maudit avant qu'on tourne le balado. Alexis, t'es comme, quoi, tu vas vraiment parler de ça au balado? Tu vas faire un gros segment là-dessus? Je vous jure, il n'était pas content.
Donc,
la personne elle a compris ton non-verbal ce jour-là.
Écoute, c'est ce qu'on appelle des effets de toge, de la théâtralité pour ajouter, n'est-ce pas, du piquant à tout ça. Mais là, par contre, il y a une personne qui nous écrit « Si vous avez à ce point, je me sentais un peu visé, des réactions épidermiques et aucun sentiment de familiarité à chaque fois qu'un mot français est utilisé pour remplacer un mot en anglais, c'est peut-être que vous baignez trop dans l'univers de la tech dominée par la langue anglaise. Les racines de votre belle langue maternelle sont-elles devenues colonisées par la tech? La question se pose. » Si on a eu ce débat-là, c'est plutôt le contraire. C'est notre attachement et notre volonté de toujours faire valoir le français plus que l'anglais quand on parle de tech. Ceux qui nous écoutent en Suisse, en Belgique et en France et ailleurs dans la francophonie, là, dites-moi, est-ce que c'est pas plutôt l'anglais qui prévaut quand on parle de tech dans le reste de la francophonie?
Smartphone ou...
Exactement. Donc nous, si on parle de ces choses-là, si Jeff est allé avec cette proposition de sondage, c'est précisément parce qu'on...
J'aime bien les néologistes. Ouais. Dans ce cas-là, c'est même pas un néologiste, c'est une application d'un mot qui date à une nouvelle situation. conversation que, qui n'aurait pas été prévue quand ce mot-là a été proposé. Donc, c'est dans un effort, justement, d'avoir un référent commun linguistique pour... Puis comme la personne le souligne, c'est des discussions qui émanent de la Silicon Valley. C'est ces gens-là qui inventent ces systèmes-là. Eux vont inventer des mots en anglais pour décrire ce qu'ils créent, décrire les situations qui en découlent. Puis je pense que c'est important d'avoir ces discussions-là, d'avoir des termes français.
Et je tiens à annoncer...
L'OQLF.
OQLF, c'est ça, parce que là, invite, c'est pas le seul terme qu'il faut qu'on intègre dans notre vocabulaire. Ça tombe... Le timing est bon parce que le 7 mai dernier, donc le jour qu'on tournait le balado la semaine dernière, l'OQLF a lancé la version actualisée et bonifiée du vocabulaire de l'intelligence artificielle. On mettra le lien dans la description pour ceux et celles qui nous écoutent
beaucoup
sur YouTube.
De mots, hein?
Énormément de mots.
Puis il y en a. Écoute, tu sais quoi, c'est une rétropropagation du gradient de l'erreur?
Ouais, mais ça, bon, est-ce que je sais c'est quoi en anglais même?
Non, mais tout ça pour dire que c'est très touffu, hein? Il y a beaucoup de termes là-dedans.
Mais certains termes, tu sais, qu'on utilise énormément, donc quand on parle du input et du output, donc qu'est-ce qu'on met dans le robot conversationnel et ce qu'il nous sort par la suite.
Intrant.
On parle d'intrant et d'extrant.
Ouais. Ouais.
Donc ça aussi, il va falloir qu'on intègre ces termes-là.
C'est intuitif, ça, là?
Oui, ça marche. Ça pourrait devenir normalisé. Mais
un que j'ai aimé, c'est prompt engineering.
C'est quoi?
C'est rédactique.
Rédactique?
Rédactique. Donc le fait de créer des invites, de développer une habileté pour créer des invites.
Ça sonne encore bizarre.
La rédactique. Donc, j'avais jamais entendu ça.
Donc, on mettra le lien de ce guide, de ce lexique de l'IA de l'OQLF. Chapeau aux gens de l'OQLF, donc, qui effectuent ce travail. Je tiens à souligner le commentaire de Sarah, qui nous écrit « Plus le temps passe, plus je suis capable d'identifier dans mon entourage les gens qui écoutent votre balado par leur francisation des termes liés au français. » Au web, pardon. Voilà pour ce commentaire. Et on va clore les commentaires avec cette question. Une personne qui nous dit « Le suspense est intenable. » J'en avais glissé un mot subrepticement dans le balado la semaine dernière. Elle dit « Je dois connaître l'opinion de Jeff sur les friteuses à air. »
Wow!
Parce que j'avais dit que parfois, tu changeais d'idée.
Non, c'est juste qu'au début, je pensais que c'était une arnaque. T'sais, je veux dire... C'est un mini-four que tu mets sur ton... C'est un four à convection que tu mets sur ton comptoir. À quoi ça sert? J'en ai eu un en cadeau, puis j'utilise à chaque semaine. Pour vrai, pour certaines applications, ça marche à merveille. C'est pas une affaire miraculeuse. Ça fait pas tout. Mais pour certaines petites choses, surtout pour quand tu fais de la cuisine la semaine, que tu veux des résultats rapides, c'est quand même fort utile.
C'est ça l'affaire avec les friteuses à air. C'est comme la mijoteuse où est-ce qu'il y a comme une secte de gens qui pensent que tu peux tout faire avec
non,
ça.
Mais
c'est juste faux.
C'est un outil.
Mais pour les bonnes applications, c'est parfait.
Des frites congelées, là, la meilleure manière de faire des frites congelées.
Mais la palme d'or des commentaires, les amis,
ou
des courriels. Là, je vais l'évoquer en tenant dans ma main droite ici cette tasse qui a été, donc, d'ailleurs, payée à nos propres frais. Là. C'est pas les frais des contribuables. La tasse avec la phrase « La question se pose », notre phrase fétiche. On a chacun une tasse comme ça. Bon, vous l'avez pas amené là-bas avec notre photo. Ben, y a une personne, Clara. Salut, Clara. Salut à toi du fond du cœur qui nous écrit en nous disant... Et là, on va mettre la photo en appui pour ceux qui nous écoutent sur YouTube. Je voulais vous faire parvenir une photo de tasse que mes amis ont fait faire, oui, pour mon anniversaire. 3 tasses au total, parce qu'on n'a pas arrêté d'y penser depuis que la tasse a été révélée pour la première fois au balado. Wow!
C'est incroyable. C'est...
On a officiellement de la merch, man. C'est incroyable.
Jamais j'aurais pu croire qu'on en arriverait là, mais c'est très touchant.
Ça fait chaud au cœur.
Je pense que c'est clairement ça. Ça fait chaud au cœur.
Aussi, quand même incroyable qu'ils ont réussi à reproduire ta tasse quasiment parfaitement. Là.
Ça, j'avoue.
Comme ça fait un peu peur.
Pas mal de choses qui font peur par les temps qui courent. Mais ça fait plaisir. Ça va droit au cœur. Merci, Clara. Bisous, bisous. Bon, on part maintenant avec les manchettes. Les manchettes et le menu du jour. Il y a moins d'éléments cette semaine, moins de services, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas gourmand. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas beaucoup de choses à vous dire. Vous nous connaissez, n'est-ce pas? On vous parle du conspirationnisme plus populaire que jamais au Canada, semble-t-il. En tout cas, c'est ce que conclut un rapport qu'on a obtenu en primeur et qu'on a épluché pour vous. On vous parle de Marie-Claude Barrette et de de son combat contre Meta, l'action collective qu'elle intente contre le géant du web, va de l'avant. Feu vert de la Cour supérieure du Québec, notre regard sur cette cause ultra, ultra médiatisée. On vous parle d'IA et de journalisme, un alliage qui ne fait pas toujours l'affaire de tous. En tout cas, ce n'est pas toujours un mariage parfait, ça, c'est sûr et certain. Il y a une fausse citation de Pierre Poilievre qui s'est glissée dans un article du New York Times, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. On s'en inquiète, bien entendu, mais parfois, on a l'impression de crier dans le désert à ce sujet, notamment. Et puis, on vous parlera du sport, évidemment, d'IA aussi. Je ne vous en dis pas plus parce que c'est le temps d'y aller. Je suis impatient. J'ai hâte de commencer avec ce 103e épisode du balado des décrypteurs. Avant d'entreprendre les discussions autour de cette table, une affaire très importante, liker, aimer en français, notre épisode, nos épisodes quand ils sont mis en ligne sur YouTube. Il y a moyen de le faire évidemment sur audio si vous nous écoutez sur audio. C'est super important pour aller titiller l'algorithme.
Ça fait vraiment une différence, surtout qu'on n'a pas notre propre chaîne YouTube. Ça donne à l'algorithme l'idée de l'envoyer au plus grand nombre de personnes. Donc pour vrai, je sais que c'est un... Call to action qui est dans toutes les vidéos, mais pour vrai, ça aide.
Un appel à l'action, oui, qui est très important de faire. Oui, la chaîne YouTube, c'est pas parce qu'on aimerait pas ça. Hein. En tout cas, je dis ça, je dis rien. Peut-être un jour une chaîne YouTube des décrypteurs, on verra bien. Une chose est certaine, c'est que, semble-t-il, le penchant conspirationniste des Canadiens est en hausse, surtout depuis la pandémie. C'est ce que conclut un rapport qui a été produit par la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent, que ce soit à propos des risques allégués liés au vaccin, que ce soit à propos de l'idée non fondée que les élites maximisent les flux migratoires pour remplacer la population canadienne. J'en passe. Un nombre grandissant de nos concitoyens et concitoyennes adhèrent à ce type de narratif, à ce type de complot fantasmé. Nicolas, t'as épluché ça une bonne partie de la semaine, t'as écrit un article là-dessus.
Oui, j'ai publié un article là-dessus aujourd'hui, puis j'ai pu justement obtenir ce rapport-là en primeur de la chaire UNESCO-PREV, qui est vraiment, c'est vraiment comme les experts là, en ce qui concerne les phénomènes conspirationnistes ou de radicalisation. Il y a plusieurs experts de renom là-bas au Québec. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait deux sondages, donc un en 2021 et un en 2025, et ils ont pu mesurer l'évolution de l'adhésion des Canadiens à des énoncés conspirationnistes. Puis là, avant même qu'on commence, ce rapport-là, quand il débute, il dit, ils reconnaissent là, que le terme conspirationniste, que le terme complotiste est vraiment quelque chose qui est devenu toxique, péjoratif au fil du temps, mais il en demeure pas moins, selon eux, que c'est le terme qui décrit le mieux les énoncés, la vision du monde qu'ont certaines personnes, selon laquelle tout s'explique par des complots, tout s'explique par des plans secrets faits en catimini par les élites. C'est pas juste d'adhérer à un énoncé conspirationniste ou à un autre, mais c'est vraiment d'avoir un point de vue systématique pour expliquer tout à travers cette lentille-là.
Donc, la nature monologique qu'ils disent, hein, c'est ça?
Oui, ils disent aussi, bon, ça c'est une des conclusions du rapport, c'est que si on adhère à un des énoncés qui est mentionné, il y a de très bonnes chances qu'on adhère à tous les énoncés. Tu en as mentionné deux en partant, mais avant même qu'on rentre dans tous les détails de ça, pour moi, la statistique est la plus parlante là-dedans, c'est que près d'un Canadien sur cinq, donc 18,8% des répondants au sondage sont des adhérents convaincus des conspirations. Mmh. Ça a augmenté de 7,2 points de pourcentage en 4 ans. C'est quand même une hausse significative. Puis quand on parle d'adhérents convaincus, là, c'est parce que chacune des questions qu'ils ont sur les énoncés, on peut répondre sur une échelle de 1 à 5 à quel point on adhère à ces énoncés-là. Et donc, si on adhère à plusieurs d'entre eux, à 4 ou à 5 de l'échelle, donc si on est plutôt d'accord ou très d'accord avec l'énoncé, c'est là qu'on est catégorisé comme quelqu'un qui est convaincu des conspirations. Donc, c'est une hausse quand même élevée. La deuxième statistique importante là-dedans, c'est que le taux d'indécis face aux conspirations a lui aussi augmenté de manière significative. Il est passé de 8,8% en 2021 à 14,6% en 2025. Donc ça, c'est un groupe de gens qui disent « Ben, j'y crois peut-être pas, mais c'est peut-être pas faux non plus. » Donc, le taux d'indécis a lui aussi augmenté. Donc, on consolide et on augmente le taux d'adhérents convaincus et le taux d'indécis monte. Donc, ce qu'en retire le directeur de la chaire UNESCO-PREV, David Morin, c'est que tout ça est lié en bonne partie à une érosion de la confiance envers les institutions, aussi parce que les sondages n'ont pas seulement mesuré l'adhésion à des énoncés conspirationnistes, mais aussi plusieurs autres caractéristiques psychosociales des personnes qui y répondaient. Donc, on a sondé leur point de vue par rapport à plusieurs institutions. On a regardé des facteurs comme l'isolement, notamment. On a regardé les orientations politiques. On a regardé à quel point ces gens-là étaient religieux. Donc, ils essayent d'établir des liens, des corrélations entre l'adhésion à ces énoncés-là et d'autres ensembles de croyances, d'autres situations dans lesquelles les gens se trouvent. Et, mais la corrélation la plus forte, là, c'est vraiment la confiance envers les institutions.
Institutions étant les médias, pardon, les gouvernements, les grandes entreprises en général. Et qu'est-ce qu'on dit ou est-ce qu'on a sondé les gens sur leur diète informationnelle?
Oui, puis là aussi, c'est pas nécessairement surprenant, mais on voit que les gens qui adhèrent davantage à ces énoncés conspirationnistes-là sont, s'informent en plus grande partie sur les réseaux sociaux et c'est le contraire, donc le plus qu'on descend dans l'échelle, ceux qui adhèrent moins s'informent davantage auprès des médias dits traditionnels.
Donc, on a évoqué deux énoncés, Nicolas, en préambule, mais il y en a d'autres qui faisaient partie de ce sondage.
Oui, il y avait donc, comme tu disais, les vaccins ou l'immigration, ça c'est deux d'entre eux. Respectivement, c'est 29,7% des répondants qui croient que les gouvernements cachent au grand public la nécessité des vaccins. Plus d'un quart des répondants aussi qui croient à cette thèse du grand remplacement avec l'immigration. Sinon, la pandémie est un prétexte pour conditionner la population à la docilité et à la répression policière. On parle de 21,8% des répondants.
Mm-hmm.
Il existe un groupe secret qui contrôle les gouvernements et est impliqué dans le satanisme et la pédophilie. On parle de 19,2% des répondants, donc près d'un sur cinq. Et le réchauffement climatique n'existe pas. C'est une thèse avant tout défendue par des politiques et des scientifiques pour faire avancer leurs intérêts. C'est 15,9% des répondants. Chacune des catégories est en progression là, depuis...
Sauf le féminisme, qui est une stratégie pour permettre aux femmes de contrôler la société. Ça, c'est assez stable.
Oui, ça, c'est resté stable.
Ouais, celle sur le pédosataniste, ça ne me surprend pas de voir ça augmenter depuis 2021. Là, l'affaire Epstein a été énormément partout depuis quoi, 6 mois? Même un peu plus. Puis tu sais, on en a déjà parlé au balado, il y a des idées reçues par rapport au dossier Epstein qui ne sont pas nécessairement dans les dossiers, mais que les gens, on en a parlé là, comme des histoires de manger des enfants, de rituels sataniques qui, oui, sont dans les dossiers Epstein, mais ce sont des allégations que même le FBI a dit là, après avoir parlé aux personnes qui ont fait ces allégations-là, que c'est absolument non fondé. Mais ça a frappé l'imaginaire collectif. On a vu des captures d'écran des dossiers Epstein, beaucoup sur Instagram, sur X. Donc, ça ne me surprend pas là, qu'il y ait une recrudescence de cette pensée-là.
Bien, puisque tu parles des dossiers Epstein, les théories ou les thèses ou les énoncés conspirationnistes en lien avec l'affaire Epstein ont été très populaires dans la frange plus progressiste. C'est ce qu'on a vu et noté dans des épisodes précédents de notre balado. Puis je regarde rapidement les énoncés conspirationnistes que tu viens d'évoquer, Nicolas. Il y en a peu qu'on associerait directement à ceux qui circulent auprès, justement, des cercles progressistes. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Est-ce que les chercheurs se sont prononcés à cet effet? Parce que la pandémie, le réchauffement climatique, le grand remplacement, on associe ça à une certaine droite populiste ou en tout cas plus dans le camp de la droite.
Les chercheurs disent que ce n'est pas des questions nécessairement qui sont orientées politiquement. Selon eux, c'est plus des sujets clivants en ce moment. Et donc, ils voulaient mesurer l'évolution de ça. Il y a aussi des données qu'ils m'ont envoyées sur l'identification à des partis politiques des gens qui répondaient. Puis on voit quand même qu'il y a une certaine adhésion dans la gauche politique, mais qu'elle est moindre que les gens de droite, du moins si on regarde les questions qu'ils ont posées dans ce cas-ci. Mais c'est peut-être des questions qui seront davantage étudiées à l'avenir par ces chercheurs-là.
Bien, c'est ça. C'est une grande surprise, je pense, de voir l'évolution depuis 2021. On sait que la COVID, depuis 2021, ça fait en sorte que beaucoup de gens se sont intéressés à des théories conspirationnistes. On l'a pu le constater directement sur les réseaux sociaux. Ça me fait penser à un article de Richard Warnicka du Toronto Star qui a publié la semaine dernière. Donc, c'est un journaliste albertain qui couvre la politique américaine, qui est retourné dans sa province natale dans le cadre du débat sur la séparation de la province. Puis il a dit que ce qu'il a pu constater sur le terrain, ça l'inquiète beaucoup, une recrudescence, un divorce avec la réalité. Puis il raconte parler non seulement à des dirigeants de ce mouvement-là, mais à des amis d'enfance avec qui il a grandi en Alberta. Puis une chose qu'il remarque, c'est que jusqu'à peu près 2021, on partage peut-être pas les mêmes opinions, mais on a un référent commun à une réalité commune. On a des points de vue différents sur une réalité commune, mais depuis 2021, c'est le divorce total. Puis une chose que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est qu'ils demandent aux gens pourquoi ils adhèrent à la séparation de l'Alberta. Puis les gens, ils disent pas... « Ah, c'est la politique fédérale sur c'est l'énergie, c'est pas les taxes, c'est la COVID. Mm. » Les gens disent « Je veux me séparer à cause de la COVID. » Alors que, tu sais, la province albertaine a eu des mesures sanitaires comme toutes les autres provinces. On rentrera peut-être pas en détail dans la politique albertaine, mais bref, la plupart des gens qui sont cités dans l'article, là, ils mentionnent ça comme point de rupture avec le Canada puis avec la culture mainstream, dans le fond. Puis, donc, on voit un peu la même chose là, dans ce rapport-là.
Oui, puis la COVID, ça a certainement été un événement catalyseur aussi pour que les gens parlent beaucoup de l'adhésion aux théories du complot, mais ça a toujours existé aussi avant ça.
Bien sûr.
Puis, c'est intéressant que tu mentionnes la COVID, Jeff, parce que dans le rapport, ce que disent aussi les chercheurs, c'est que une des explications potentielles pour cette perte de confiance envers les institutions, envers les gouvernements, c'est qu'il n'y a pas eu énormément de rétroactions en bonne et due forme. Il n'y a pas eu beaucoup de commissions d'enquête ou d'aller voir qu'est-ce qu'on a fait de bien, qu'est-ce qu'on a fait de mal dans la gestion de la pandémie. Tu sais, c'est une époque qui a beaucoup semé la méfiance envers les gouvernements, envers les institutions, puis selon la chaire, puis ils parlent de manière générale, là, ils ne montrent pas un gouvernement du doigt ou l'autre, ils disent qu'il y a eu très peu de remise en question à la suite de ça ou de reconnaissance de certaines erreurs qui auraient pu être faites en cours de route, et ça pourrait venir expliquer en partie cette perte de confiance envers les institutions.
C'est sûr que le réflexe de l'autocritique aurait été salutaire, ça aurait envoyé un certain message de la part des institutions, quelles qu'elles soient. Ça, c'est certain. Les médias inclus.
C'est ça que j'allais dire, oui.
Les médias inclus, parce que c'est sûr que certains réflexes dans la façon de nommer les personnes qui adhéraient aux théories conspirationnistes ont pu alimenter cette animosité, cette méfiance envers les médias, et c'est légitime.
Le dernier point peut-être que je soulèverais dans ce rapport-là qui est intéressant, c'est que il y a 4 groupes d'âge qui ont vu une hausse d'adhérents convaincus de 10 points de pourcentage. Donc, les hommes de 18-34, les hommes de 35-54 ans et les femmes de 18 à 34 ans et de 35 à 54 ans. C'est les hommes de 18 à 34 ans qui ont le plus haut taux d'adhérents convaincus. On parle de 29 %. Mais pour les femmes de 18-34, ça va de 8 à 18 %. Donc, c'est une hausse quand même importante, même si ce n'est pas le groupe le plus représenté. Là. Donc, c'est ça. Mais c'est vraiment les hommes de 18 à 54 ans qui adhèrent le plus aux théories du complot en date de la mi-2025. Donc, c'est là où cette collecte de données-là a arrêté.
Et c'est ça, elle a arrêté. Mais le travail de ces chercheurs se poursuit. Il va peut-être s'élargir pour regarder ça plus largement, le phénomène du conspirationnisme et des gens qui adhèrent sur le web. L'article de Nicolas, évidemment, est à lire sur le radiocanada.ca, dans lequel vous trouverez le lien vers le rapport comme tel. Voilà pour ce sujet, le premier qu'on voulait aborder cette semaine avec vous. Parlons maintenant d'un autre sujet dont on vous a souvent parlé, tant à l'émission qu'au balado. On a amplement exploré ce fléau de l'usurpation de l'identité de personnalité publique à des fins frauduleuses, Normand Brathwaite, Guy Lepage, Céline Galipeau, j'en passe et j'en passe. L'objectif ultime de tout ça, il ne faut quand même pas l'oublier, c'est la fraude à la crypto-monnaie. Hein? En février 2024, on avait fait une vaste enquête sur ça qui nous avait mené à parler de ces centres d'appel frauduleux, notamment, entre autres, basés à Kiev, en Ukraine, à partir d'où opèrent ces gens-là, ces fraudeurs-là, des professionnels de l'arnaque qui visent de plus en plus les Canadiens. Ce stratagème refait surface cette semaine à la faveur d'une décision de la Cour supérieure du Québec qui a donné son feu vert à l'action collective intentée par la productrice et animatrice Marie-Claude Barrette contre Facebook et sa maison-mère Meta. Elle cherche réparation donc pour de fausses publicités qui usurpent son identité et celle de plusieurs personnalités publiques au Québec.
Oui, on va rappeler les faits juste rapidement. La Marie-Claude Barrette, qui est une animatrice québécoise, en septembre 2023, elle commence à recevoir des messages de gens sur sa page Facebook. Puis ils disent « Hey, j'ai investi, penses-tu que je vais pouvoir faire de l'argent? » Puis là, comme de quoi vous parlez? Elle se rend compte qu'il y a une publicité avec son visage là, qui dit qu'elle a une nouvelle forme d'investissement. Puis là, ça mène à un faux article de la presse où elle est supposément interviewée. Puis là, les gens ont cliqué là-dessus, ils ont investi de l'argent, ils ont perdu de l'argent. En 2024, elle intente une action collective contre Meta et Facebook, justement pour avoir permis cette usurpation de son identité-là à des fins fins frauduleuses. Elle a sorti un documentaire l'année dernière, Marie contre Goliath, qui a beaucoup fait jaser.
Sur Tout.tv, hein.
Oui,
balado
c'est vrai,
aussi.
Oui, c'est ça. Beaucoup fait jaser. Ça a même inspiré le gouvernement du Québec à se pencher sur un projet de loi pour justement empêcher l'usurpation d'identité sur les plateformes comme Meta. Donc, c'est quelque chose qui a énormément fait jaser. Et puis là, le juge Martin Chienne de la Cour supérieure du Québec a donné le feu vert pour que cette action collective-là aille de l'avant. Une chose qu'il faut, préciser, c'est que le recours collectif, c'est juste pour les personnes, les personnalités publiques dont l'identité a été usurpée, pas les victimes. Okay. Et on a scindé le recours collectif fraude, en deux parce que le juge Martin Chienne a fait remarquer qu'il y a déjà un autre recours collectif pour les victimes. Donc, ceux qui avaient adhéré à ce recours collectif-là, les victimes, on les met avec cet autre recours
collectif. Ceux qui ont perdu de l'argent.
Ceux qui ont perdu de l'argent, les victimes qui ont cliqué sur ces publicités-là. Puis, ben, l'autre recours collectif, il y a un lien avec les décrypteurs. Parce que les deux personnes qui l'ont intenté, c'est Fernand Larouche et Joanne Gauthier qui étaient apparus dans un documentaire de la facture conjoint avec les décrypteurs.
Ben
donc,
oui.
Tout est dans tout.
Tout est dans tout. Le témoignage de Fernand, ben oui.
Donc, dans le fond, Meta se défendait de deux façons pour essayer de bloquer le recours collectif. D'une part, disait que le Québec n'a pas de compétences pour cette action collective-là. Entre autres, parce que dans les conditions d'utilisation, quand tu crées une page Facebook, ça dit que ben, tu t'engages à ce que s'il y a un différend légal, ça va avoir lieu aux États-Unis et non dans ton pays d'origine. Et puis le juge a complètement rejeté cette interprétation-là en disant que même si Mme Barrette, elle a une page Facebook, l'action en question, même si elle n'avait pas de page Facebook, elle pourrait porter plainte. Là, la plainte ne porte pas sur sa page Facebook, mais le fait que son identité à elle en tant que Québécoise a été usurpée. Donc, le Québec est compétent aller de l'avant dans cette action collective-là. Donc, il a rejeté cette interprétation-là des avocats de Meta. Puis, l'autre défense de Meta pour essayer de faire rejeter ça, c'est que ben, Meta alléguait qu'ils ne sont pas responsables du contenu sur les plateformes, qu'il y a des protections. Puis, on le sait, aux États-Unis,
ils disent tout le temps, on est un intermédiaire, on n'est pas responsable de ce qui s'écrit, ce qui se publie.
Puis, le juge rejette ça carrément du revers de la main.
Oui. Carrément. D'ailleurs, les avocats de Facebook citaient une autre action collective qui avait été rejetée en 2021, le Houllier Dumas contre Facebook. C'était quelqu'un qui avait poursuivi Facebook parce qu'il y avait des pages Facebook, dit son nom, là, qui nommaient des allégations d'agression sexuelle. Puis là, le juge avait rejeté ça en disant on peut pas faire ça, on peut pas poursuivre Facebook pour d'avoir pas retiré un contenu diffamatoire à notre endroit. Ils peuvent pas gérer tous les contenus sur la plateforme. Mais dans ce cas-ci précis, le juge a dit, ben non, mais c'est parce que ce sont des publicités et c'est là la différence.
Ben oui,
c'est
comme ça qu'il faut leur argent. Hein.
Oui, et parce que Facebook eux-mêmes, dans leurs conditions d'utilisation, disent qu'ils surveillent les publicités et ils retirent activement les publicités qui sont frauduleuses. Donc, le juge a dit, ben, vous ne pouvez pas dire que vous n'êtes pas responsable de ce contenu-là quand vous dites vous-même. Et il dit, là, les défendeurs ne peuvent pas dire qu'ils ne sont pas responsables de ça parce qu'ils se réservent eux-mêmes le droit de les retirer. Donc, cette protection-là là, sur les contenus qui sont publiés à même les réseaux sociaux, puis on s'entend, elle existe, ça ne s'applique pas dans le cas de publicité, surtout que Facebook dit eux-mêmes proactivement les surveiller.
Oui, il cite aussi l'accord Canada-États-Unis-Mexique, l'accord de libre-échange, puis Meta dit, ben, selon cet accord-là, on n'est pas responsable des actions des utilisateurs, mais le même accord, dit le juge, dit que toutefois, ils peuvent engager leur responsabilité si du matériel hébergé est illicite et qu'ils en sont avisés.
Ouais.
Dans ce cas-ci, on parle de fraude, on parle de gens qui signalent ces fraudes-là à Facebook et que rien n'arrive. Donc, le juge essentiellement dit...
Ouais.
Guys, vos arguments sont pas super bons, là. mais faut encore... Dans le sens que oui, là, l'action collective peut aller de l'avant, mais il faut qu'un autre juge, quand même, statue si oui ou non, elle est valide.
Là, ça, on donne le coup d'envoi.
C'est
là,
ça. C'est le début du processus.
Le véritable procès va avoir lieu. Une autre chose qui est intéressante, c'est que les avocats de Meta disaient, ben la fraude, elle a lieu sur un lien externe à Facebook. On peut pas être responsable de ça. Puis le juge fait remarquer, ben dans vos standards de publicité, Meta dit noir sur blanc que les liens externes sont vérifiés puis qu'ils se réservent le droit de retirer une publicité si le lien externe est frauduleux.
Ben là, quand une entreprise ne respecte pas ses propres normes qu'elle met en place à l'interne, il y a un gros problème. Là.
J'ai très, très hâte de voir la défense de Meta à l'avenir parce que eux, quand on parle des liens, là, ce qu'ils disent aux médias, c'est que les fraudeurs utilisent des techniques super sophistiquées là, pour masquer vers où ces liens-là ils vont. Ces techniques-là, on en a déjà parlé au balado, s'appelle du cloaking. Et dans un billet de blog qui date il y a comme 10 ans à ce point-ci, ils ont dit qu'elle allait s'attaquer à ça. Ouais. Encore une fois, c'est pas une start-up qui fait 2 $ par année. Là. C'est une entreprise qui vaut des centaines de milliards de dollars. On pourrait se demander s'ils n'ont pas les capacités technologiques de déceler ces choses-là.
Avec l'IA notamment, oui.
C'est ça que le prochain juge devra déterminer. Parce que dans le jugement, on a comme une liste de questions que le prochain juge devra trancher, si on veut. Là. Notamment, les défendresses sont-elles responsables des dommages causés? Les défendresses ont-elles suivi correctement les processus d'examen prévus dans les savoirs publicitaires? La demanderesse et les membres du groupe visé sont-ils en droit de réclamer des dommages compensatoires? Donc, plusieurs questions à régler. Et chose certaine, on va suivre ça de très près ici. Là.
Oui, puis il y a l'autre procès. Comme tu le disais, Jeff, il y a deux procès. Donc, oui, pas deux procès, deux actions collectives, pardon. Une qui concerne les victimes de ces fraudes, dont cet homme qui avait témoigné à notre caméra, et celui de Marie-Claude Barrette qui représente les personnalités publiques dont l'identité a été usurpée. Cloaking, Nicolas? Masquage.
Masquage. Une chose, je suis vraiment content que ce cas-là a fait réagir, fait beaucoup jaser. C'est un problème qui dure depuis longtemps. Puis maintenant, on en parle beaucoup. Le problème, c'est qu'il manque un peu cet aspect systématique de la chose. Puis, tu sais, on en a parlé souvent aux décrypteurs. C'est une industrie. Ce type de fraude-là, là, très précise, là, qu'on a décrit, qui est arrivé à Mme Barrette, mais à d'autres gens. C'est une industrie. C'est une industrie frauduleuse. Le Canada est particulièrement visé par cette fraude-là. Mm-hmm. Puis on a encore l'impression, puis j'ai regardé le documentaire de Mme Barrette, puis on a un peu l'impression que, tu sais, ah, c'est des petits fraudeurs dans leur sous-sol. Non, c'est des gens qui travaillent des 9 à 5 pour frauder des Canadiens jour après jour avec ces mêmes tactiques-là qui fonctionnent depuis presque 10 ans. Mm-hmm. C'est la même fraude, là. Puis c'est une industrie qui génère des milliards de dollars par année. Donc, je pense que le message voudrait qu'il se passe là, que c'est pas anecdotique, c'est pas « Ah, quelqu'un a choisi de prendre l'identité de Marie-Claude Barrette pour faire une fraude. » C'est vraiment une industrie qui se déploie depuis longtemps. Mm-hmm. Meta est au courant là, de ces problèmes-là. Ça fait longtemps que ça dure, puis c'est systématique comme problème. Ouais. C'est pas juste un pays qui peut agir contre ça. C'est vraiment mondial, cette industrie de la fraude-là.
C'est ça, une nuance, un détail hyper important qui peut-être, en fait, qui est pas dit clairement dans ce documentaire auquel on se réfère. Je vous réfère à notre reportage « Le Canada, cible numéro 1 de fraudeurs internationaux ». 27 février 2024, c'était mis en ligne, notamment sur YouTube. On peut aller voir ça. Excellent travail de mes deux collègues, Nicolas et Jeff, et toute l'équipe technique, évidemment, qui travaillait avec eux. Si vous voulez réagir aussi à la cause menée par Marie-Claude Barrette, son action collective, n'hésitez pas, on est preneurs des témoignages, tout ça, amenez-en. Ne vous gênez surtout pas. Et j'ose avoir la présomption que le prochain sujet dont on va parler est au cœur aussi des préoccupations des gens. En tout cas, ça suscite de plus en plus d'inquiétudes, j'en suis sûr et certain, même si je n'ai pas tous les chiffres à l'appui pour le soutenir. Je parle de l'intégration subtile, parfois moins, de l'intelligence artificielle générative dans le travail journalistique. C'est important qu'on en parle. C'est ce sur quoi j'insiste de plus en plus. Il y a mille et un exemples qu'on peut donner. On va commencer cette semaine par un exemple qui nous vient du New York Times. Un exemple de quoi? De dérapage à cause de l'IA.
Ben là, on ne parle pas juste d'une journaliste du New York Times, mais la chef de bureau politique du Canada du New York Times, quelqu'un d'extrêmement chevronné, qui a diffusé une fausse citation du chef de l'opposition, Pierre Poilievre, qui a été générée par l'intelligence artificielle. Donc, dans un article du 14 avril, traitait de des changements de parti en politique fédérale canadienne. Donc, il y a eu plusieurs députés conservateurs qui ont traversé la Chambre, qui sont allés siéger chez les libéraux. Puis là, elle disait que dans un discours de Pierre Poilievre, M. Poilievre disait, et je cite là, si c'est turncoats, c'est une expression en anglais, mais c'est comme traître, c'est vraiment très sournois comme mot. S'ils ont une parcelle d'intégrité qui reste, ben ils devraient démissionner puis ils devraient avoir une élection partielle dès demain. Donc ça, c'était une citation qu'on donnait à Pierre Poilievre. Mais c'était halluciné par intelligence artificielle. Le New York Times a dû amender l'article pour dire, elle avait demandé à l'intelligence artificielle de faire un résumé des pensées de M. Poilievre. Puis l'intelligence artificielle a présenté ça comme une citation alors que c'était une paraphrase, donc un résumé. Reste que c'est quand même assez grave d'avoir publié ça.
C'est la base.
Dans le New York Times quand même, de complètement déformer les propos du chef de l'opposition du Canada. C'est super, super grave. Puis la correction, ça a pris 2 semaines. Donc l'article a été publié le 14 semaines. Avril. Oh. C'est seulement le 1er mai qu'il y a eu une note de la rédaction pour dire, écoutez, il y a eu une erreur ici. Alors que les politiques du New York Times sont très claires que les journalistes du New York Times ne sont pas supposés d'utiliser l'intelligence artificielle pour rédiger des articles d'aucune façon. Donc c'est quand même assez grave. Puis j'ai vu beaucoup d'indignation chez les journalistes canadiens cette semaine par rapport à cette histoire-ci, parce que justement, le New York Times affichait un poste au Canada. Il cherche un correspondant pour l'Ouest canadien avec un salaire allant entre 158 000 et 235 000 $ canadiens.
Wow.
Donc, c'est nettement plus, je vous l'assure, que ce que la plupart des journalistes canadiens gagnent comme salaire. Donc, New York Times qui débarque au Canada, on sait depuis quelques années, qui fait de plus en plus de reportages au Canada avec des journalistes d'ici qui couvrent le pays. Il n'y a rien de mal avec ça. Mais dans ce cas-ci, c'est un cafouillage assez majeur de la part de quelqu'un qui a des grosses responsabilités dans la couverture de ce journal qui a une portée mondiale de notre pays.
C'est ça, et c'est cet aspect-là, vraiment, le salaire que propose le New York Times pour un correspondant au Canada qui a beaucoup révolté Karine Pouliese, elle, qui a écrit ça sur Substack. C'est de d'elle que provient l'information. Donc, je voulais juste la nommer parce que c'est d'elle qu'on a appris ça.
Oui, d'autant plus que le New York Times n'en est pas à ses premières expériences du genre. D'autres concernent des collaborateurs, collaboratrices, pigistes. En avril, le journal The New York Times a rompu ses liens avec un collaborateur qui avait admis utiliser l'IA pour rédiger une critique de livre truffée d'éléments de plagiat. Et avant ça, il y a aussi, en mars, une collaboratrice qui, dans sa rubrique de Modern Love, avait utilisé l'IA pour rédiger un essai personnel très chargée émotivement. Elle a confié avoir eu recours à des robots conversationnels pour concevoir et peaufiner ce texte. Mais l'exemple le plus frappant pour moi, là, c'est carrément des journalistes 100% IA, des personnes qui n'existent pas. 4 qui ont donc été très actifs, qui ont publié des articles dans HuffPost, Forbes, VentureBeat, The Street, qui faisaient la promotion des crypto-monnaies. Ils ont écrit ensemble plus de 1000 articles dans 30 médias différents avec des photos de profil et fausses, générées par IA, des noms qui n'étaient pas liés à des personnes réelles. C'est quand même un exemple patent et il y en a d'autres.
Oui, puis surtout quand on parle de perte de confiance dans les institutions.
Exactement.
Ça peut être une source de perte de confiance du public si les médias se mettent à utiliser massivement l'IA comme ça et que les erreurs s'empile. Ça fait en sorte que le New York Times, cette semaine, ce que nous apprend Futurism, a envoyé un message à ses pigistes pour leur demander de ne pas utiliser l'IA sous aucun prétexte, même pas pour éditer des phrases, même pas pour proposer des nouvelles formulations, ce genre de choses-là. Ils veulent que les pigistes n'utilisent pas du tout l'IA. Ce ne sont pas les mêmes normes qui s'appliquent à leurs journalistes à l'interne. J'imagine que c'est un peu plus balisé, là, mais on voit qu'il y a une réponse assez forte du New York Times à ces erreurs qui continuent de s'empiler. Puis, si les salles de presse se tournent de plus en plus vers ces outils-là, ce n'est qu'une question de temps avant que des erreurs comme ça s'empilent. Ce n'est pas une question de si, mais de quand.
Ben, d'ailleurs, un petit clin d'œil à nos amis français, parce qu'il y a eu un cas cette semaine d'un article de BFM TV qui portait sur les droits de douane américains. Puis bon, BFM TV a partagé l'article sur X, puis là, t'as plein de commentaires qui disaient « Hey, regardez le dernier paragraphe de l'article. » Puis le dernier paragraphe, c'est « Si tu veux, je peux aussi te reformater en version article prêt à publier avec titre, intertitre, chapeau, etc. Ça fera encore plus propre. » Donc, la personne a carrément copié le résultat de ChatGPT, Gemini ou autre, puis a juste mis ça sur le site de BFM TV, a publié. Donc, un article vraisemblablement écrit par intelligence artificielle. Puis, j'ai vu un commentaire vraiment intéressant. C'était comme, ben, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin des journalistes s'ils vont juste me générer un texte par intelligence artificielle? Je pourrais le faire moi-même. Très bonne question. Pourquoi est-ce que je lirais un article écrit par un journaliste, mais en vérité par ChatGPT, quand je peux juste demander à ChatGPT de me résumer les nouvelles? Il n'y a aucune plus-value on en est rendu à publier des articles rédigés, même en partie par intelligence artificielle. Ça pose vraiment une question, c'est quoi le rôle de journaliste dans ce contexte-là?
C'est fondamental.
Puis, la citation de la chercheuse Emily Bender, qu'elle dit souvent, c'est pourquoi je prendrais le temps de lire quelque chose que tu n'as pas pris le temps d'écrire. Et je pense que c'est une question qui reflète notre époque.
Qui reflète notre époque, qui met le doigt sur un gros, gros problème à une époque où les sommaires d'IA grugent de plus en plus de notre lectorat qui s'arrête à ça, finalement. À une époque où nos contenus sont surtout consommés par des agents d'IA qui ensuite constituent un corpus basé sur les nouvelles produites par les médias eux-mêmes. Et dans un contexte, je le souligne, où il y a un sondage récemment mené au Canada auprès de plus de 2400 adultes de chez nous qui révèle que 71% d'entre eux étaient d'accord pour que le gouvernement, nos autorités ici en place, publiques, provinciales ou fédérales, en fassent plus pour empêcher les entreprises d'IA de s'approprier, de remanier des reportages journalistiques.
Ouais, il n'y a rien que les journalistes aiment plus faire que parler du journalisme ou des médias. Donc, je trouve que c'est quand même important qu'on en parle.
Mais l'information, c'est un bien commun.
Absolument.
C'est un bien commun, là. C'est pas juste notre affaire à nous, là. Non, mais c'est vrai que je grimpe un peu dans les rideaux.
Un peu.
Mais c'est parce que c'est un bien commun qu'il faut chérir. Ouais. Et puis, les médias sont pas parfaits. Ça, c'est sûr et certain. Il y a de l'autocritique à faire. Il y a des améliorations à apporter. Mais je pense qu'on a la menace que constitue l'IA. Il faut qu'on la prenne au sérieux dans le contexte actuel parce que ça va être un boulet à traîner encore longtemps si on n'est pas vigilant, là. Et ce qui peut-être amplifie le problème, ce qu'on voit comme tendance de plus en plus, c'est des médias de gros médias, qui signent des partenariats, des ententes avec des compagnies d'IA. Ça peut aussi, en quelque sorte, fausser la donne.
Oui, c'est le site web, la Revue des médias, qui a regardé les médias qui sont cités par ChatGPT, les médias français qui sont cités par ChatGPT lorsqu'on demande des questions d'actualité. Ils se sont rendus compte que le monde a la part du lion, donc 26% des citations de médias dans les réponses de ChatGPT, c'est le journal Le Monde. Et il faut se rappeler que le journal Le Monde a signé une entente avec OpenAI en 2024. Justement, là, il y a une rétroaction. On sait qu'ils ont reçu un montant d'argent, on ne sait pas c'est combien, mais ils ont donné accès justement à leurs données à OpenAI pour entraîner les robots, puis justement pour informer les réponses, surtout lorsque c'est des questions d'actualité. Puis on voit là que le monde est surreprésenté par-dessus tous les médias français dans les réponses de ChatGPT. Donc,
de beaucoup. Là.
De beaucoup, beaucoup. Je pense le média français qui est le plus près, c'est Le Figaro avec 3%. On sait que les gens tendent à ne pas cliquer sur les liens de référence dans les réponses des robots conversationnels. Donc, oui, le monde est cité plus comme source d'information dans les réponses de ChatGPT. Bon, c'est bon pour le monde, mais est-ce que ça leur crée du trafic? Est-ce que ça leur crée du référencement? La question se pose.
La question se pose, et la question se pose beaucoup en France, chers amis, de ce temps-ci. Vous connaissez le journal sportif L'Équipe. Grosse année pour L'Équipe parce qu'il y a la Coupe du Monde qui s'en vient. Il y a PSG qui va affronter Arsenal. C'est une époque faste, mais étant donné les inquiétudes qu'ils ont, notamment face à l'IA, ils sont en démarche en vue d'une grève pour protester contre ce qu'ils appellent notamment, parmi les pratiques décriées et qu'on craint, le bâtonnage. Donc, qui consiste à remanier une dépêche d'agence afin de personnaliser un texte standardisé, tout ça avec l'utilisation de l'IA. C'est le genre de pratique qu'on voit de plus en plus, disent-ils, et qu'ils craignent, entre autres, dans un bouquet de pratiques qui ont pour point commun l'utilisation de l'IA pour produire du contenu journalistique. C'est un peu ça qui est au cœur de leur démarche. Et ce qu'ils craignent, c'est le grand remplacement des journalistes.
C'est quand même très français d'avoir utilisé un terme de vinification pour ça. Bâtonnage, c'est quand on agit le mou de raisin pour donner plus de saveur, surtout dans le vin rouge. Et je trouve ça drôle de voir. C'est très bon là, comme utilisation du terme, mais le bâtonnage, j'aime beaucoup.
C'est sûr. Jeff est un fin connaisseur du monde du vin, ça il faut le dire. Et puis en terminant, Jeff, je me permets de te citer la posture à adopter pour les médias. Ça serait pas plutôt de dire cet article, ce reportage est 100% humain. Donc garantir aucune interaction avec l'IA, c'est ça peut-être la plus-value qu'on devrait viser dans un monde où les gens, je présume, vont être en quête à un moment donné un peu plus d'authenticité.
Je vois déjà beaucoup de la part de YouTubers qui disent « no AI », il n'y a pas d'intelligence artificielle qui a été utilisée. Il y a
les films aussi qui mettent ça dans les génériques,
pour
apparemment.
Pour vrai? Wow! Ouais. Il y a le réseau de balado iHeartMedia aussi, dans leur publicité. Maintenant, ils disent 100% human, donc 100% humain pour assurer aux gens, regarde, nous, on est un no AI nazis dans un monde de slopification, de dégénérer. En tout cas, je ne vais pas essayer de traduire slopification. Mais bref, d'être un endroit où on sait, bon, c'est du contenu qui est produit par des êtres humains.
Et la méfiance envers l'IA, savez-vous, je l'ai beaucoup vu ces derniers jours, dans des subreddits consacrés au hockey. Des gens qui ont beaucoup réagi à l'utilisation par le réseau Sportsnet d'une photo de deux photos générées par IA. J'aimerais ça que vous m'en parliez un peu plus.
Oui, bien, c'est en fin de semaine, donc, à la diffusion d'un match du Canadien de Montréal. Il interviewait Nick Suzuki, le capitaine de l'équipe, au sujet du fait qu'il est devenu père récemment, donc lui et sa conjointe qui ont eu une fille. Et donc, pendant l'entrevue, on montre des photos de lui, de sa femme et de leur enfant qui sont très clairement générées par IA. C'est comme du visuel de cadre dans lequel on a ces images-là. Il y a vraisemblablement vraiment un processus créatif derrière la diffusion de ces images-là. Et les gens sur les réseaux sociaux étaient révoltés. Ils disent « Voyons donc, comment ça se fait que Sportsnet, comme il n'y a pas d'image publique de l'enfant de Nick Suzuki, a décidé de générer des images IA de son enfant. Sportsnet, à ce que je sache, n'a pas répondu publiquement à ça. Ils ont par contre retiré la vidéo de Twitter. J'ai pu faire une capture d'écran de la vidéo, par contre, donc on la montrera pendant ce segment pour ceux qui nous regardent sur YouTube. Là où je trouve ça assez cocasse, c'est que en fait, Sportsnet...
C'est pas drôle.
Moi, c'est pas drôle.
Moi, je trouve que c'est déprimant, mais go.
Ben, garde, je veux dire, oui, mais on peut en rire, tu sais.
Ouais.
Mais donc, Sportsnet, ils n'ont pas réagi publiquement à ça, mais... Nous-mêmes, il y a quelques mois, on a fait un reportage là-dessus sur les pages de contenus dégénératifs sur Facebook qui sont consacrés au Canadien de Montréal et j'ai immédiatement reconnu ces photos-là. C'est le genre de photos que ces pages-là diffusent. Donc, je crois avoir résolu le mystère. C'est pas Sportsnet qui a diffusé les images, c'est quelqu'un qui, en tentant de trouver des images, est tombé sur ces pages-là de fausses nouvelles sur Facebook, qui les a reprises, qui les a diffusées sans vérifier. Ce qui rend pas ça moins grave.
Mais non, mais ça explique un peu ce qu'il y a derrière.
Mais je pense pas que c'est eux qui les ont générés. Je pense qu'ils ont juste pris ça de pages Facebook qui tentent d'avoir de l'engagement grâce à du contenu IA.
Super intéressant.
Mais d'ailleurs, tu as fait une recherche Google Images hier, puis c'était ces pages Facebook-là qui apparaissaient quand tu faisais une recherche pour Suzuki et fille, je pense.
Ouais, c'était comme Nick Suzuki, daughter.
Ouais.
Là, la plupart des résultats, c'est effectivement les images que Sportsnet a diffusées, mais le premier résultat, du moins hier, c'était une page Facebook qui diffusait ce genre d'image-là. Donc, ça explique ça.
C'est un beau cas de figure de. Si tu ne fais pas attention puis tu diffuses quelque chose généré par IA par accident, même si c'est pas toi qui l'as généré, c'est ta réputation qui en écope.
Absolument.
Là, le monde était fâché contre Sportsnet d'avoir généré une image par IA.
À juste titre, Vox Populi, Vox Dei, on disait ça tantôt en commençant l'épisode, on le répète. Ben voilà, c'est dit. C'est sur cette note sportive.
Montréal en 6.
Révisionniste.
On enregistre le jeudi. Je suis très, 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 très excité parce que ce soir, dans un lieu qu'on va garder secret, on va regarder la partie en équipe, n'est-ce pas? D'habitude, on s'écrit, on se texte pendant les matchs, des échanges très enflammés, mais là, ça va être en chair et en os. Puis, il paraît que Nicolas, quand il regarde un match, c'est quelque chose en soi. C'est tellement qu'on est plus on sera peut-être plus tenté de regarder Nicolas regarder le match que regarder le match lui-même.
Les attentes sont élevées, là. Mais ça, je remercie mon père pour ça.
Ah oui,
c'est
pourquoi?
Génétique. C'est quelque chose, écouter un match avec lui.
Ah oui, hein?
Oui.
J'ai hâte, pour vrai. Bon, ben merci beaucoup d'avoir été des nôtres cette semaine, encore une fois. Merci beaucoup pour ces commentaires qui, j'espère, seront nombreux, qui alimentent nos réflexions et qu'on se fait un plaisir de relayer semaine après semaine dans nos épisodes. Merci à Jérémy et Martine en régie. Merci à notre cher Louis-Charles Diane, encore une fois, aux commandes cette semaine. Ça va aller pour le montage, t'inquiète, mon cher Louis-Charles. Hey, avec des années d'expérience, il n'y a pas de souci. Louis-Charles aussi qui va être des nôtres pour ce match du Canadien qu'on espère victorieux. Prenez soin de vous. Vous connaissez la formule. La question se pose. Je vous aime. Allez, salut.